France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est un établissement culturel de la ville de Paris qu'on aime bien. Un endroit important parce qu'il semble libre, ouvert, qu'il propose des spectacles, des débats, des festivals, des événements très différents, engagés ou poétiques, qui résonnent avec le monde d'aujourd'hui. Mais c'est un bâtiment historique qui en a vu de toutes les couleurs. D'abord théâtre populaire, puis dédié au mélodrame, ensuite à l'opérette. La Gaîté a même été brièvement un parc d'attractions avant de se consacrer aux arts numériques et aux musiques actuelles, puis de devenir le lieu actuel qui s'adresse à plusieurs questions culturelles, sociales, démocratiques et climatiques. Et puis, en décembre 2024, le bâtiment a été occupé par plusieurs centaines de mineurs exilés, espérant ainsi que la mairie de Paris, propriétaire des lieux, leur trouverait une solution d'hébergement. Dès le début, la direction de l'établissement a refusé d'expulser les jeunes en plein hiver, même si elle regrettait, je cite, le caractère subi et soudain de l'occupation. Le 10 janvier, le bâtiment a été fermé au public et tous les événements annulés. Et le 27 février 2024, les salariés de la Gaîté ont fait valoir leur droit au retrait. Le 18 mars, enfin, les jeunes ont été évacués par la police. Un peu plus de 6 mois plus tard, on a voulu savoir comment ça s'était passé à l'intérieur de l'intérieur pour les employés et pour les mineurs. Il ne s'agit pas de faire le bilan économico-politique de l'occupation, mais simplement d'entendre deux récits dans leur complexité par Mariem Cissé.
Mon nom c'est Barry Alassane, j'ai 16 ans, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis membre et délégué du collectif des jeunes de Pâques de Belleville et je fais partie des jeunes qui ont occupé la Gaîté lyrique du 10 décembre jusqu'au 18 mars. Avant, j'étais chez moi en Guinée. J'ai grandi dans une famille, on va dire, modeste, avec mon père, ma mère et ma petite sœur. Tout se passait très bien. Et un jour, j'ai pris la route avec mon oncle. J'avais dit à personne. J'avais 14 ans et demi quand je suis parti. C'est mon oncle qui m'a convaincu de venir. Moi, je voulais faire des études très longues. Je voulais être un journaliste. J'avais pas l'opportunité de le faire parce que c'est là où j'étais, c'était une école privée, donc il fallait payer tout, tout, tout. Et là, il m'a convaincu. Arrivé ici, je vais avoir une éducation très poussée. Je me suis laissé porter. Je suis venu avec lui. Quand on a quitté Conakry, il m'a expliqué qu'il faut qu'on parte en Tunisie pour essayer de traverser. Je l'ai demandé de traverser où, il m'a dit la mer. Après, on a fait la traversée, mais ça a été très compliqué parce qu'on a fait 3 jours là, sur la mer. Ça n'a pas été facile, mais comme on dit, c'est comme ça la vie, quoi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Lampedusa en Italie. Et là-bas, c'était un peu compliqué parce qu'ils nous ont séparés avec mon oncle. J'ai laissé mon oncle à Lampedusa. Moi, ils m'ont fait monter à Milan. Je restais là-bas. Je ne partais pas à l'école. C'était très compliqué avec la langue. Je me suis dit peut-être la France, comme c'est un pays qui m'a colonisé, c'est un pays qui parle le français comme moi, j'ai pris la décision de venir en France. Je suis arrivé à Gare de Lyon, donc je ne connaissais personne, c'était un vendredi, tout le monde courait partout, je me suis dit, là, je suis dans la merde. J'ai dormi à la gare routière de Bercy. Après, le lendemain, le samedi, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller voir la police. Là, je suis parti voir la police, je me suis présenté, j'ai expliqué à la police, ils m'ont envoyé à Tolbiac. Là-bas, après, j'ai fait mon évaluation. Le système, quand tu arrives en France, tu passes par le département qui évalue ta minorité. Si ce département dit que tu es mineur, tu es pris en charge immédiatement par l'aide sociale à l'enfance. Par contre, si César l'a dit que tu n'es pas mineur, on te laisse à l'abandon. C'est très compliqué. Il te demande de raconter toute ta vie en 20 minutes ou en 30 minutes max. Tout ce que tu dis, c'est pour eux, c'est faux. Donc, ils m'ont laissé dehors. Je me rappelle les jours où je sors de mon évaluation, il y a des bénévoles d'Éthiopie, Éthiopie 56, ils étaient en bas. Ils nous ont accueillis, ils nous ont expliqué, on va vous aider à déposer vos recours, on va vous donner des tentes. Ils nous ont montré où dormir, j'ai dit non, c'est impossible. Personne ne peut dormir en dehors. En plus, il faisait froid, c'était octobre-novembre comme ça. Donc, je me suis dit non, c'est impossible, moi, je ne peux pas dormir ici. Mais comme je voyais tout le monde dormir là-bas, j'ai demandé aux gens c'est si seulement qu'on a pour dormir. Ils m'ont dit oui. J'ai fait comme j'avais pas le choix. Les trois premières semaines, ça a été vraiment dur pour moi parce que j'étais perdu. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Avant, je n'ai jamais dormi dehors. Et je voyais la police partout. Je voyais beaucoup de jeunes qui galéraient comme moi. Donc, il y avait beaucoup de questions qui venaient dans ma tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'en sortir? Vraiment, j'avais peur. Mais bon, après, j'ai fait connaissance à beaucoup de jeunes. Ils m'ont expliqué comment ça va se passer. Il faut prendre du courage. Il faut avoir la patience. Je me suis dit, attends, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Je suis resté, mais bon, ça faisait peur quand même. J'avais un délégué du collectif du jeune de Pâques de Belleville qui dormait à Pomari. Ce délégué, à chaque fois qu'on revenait le soir pour dormir, il venait nous expliquer le collectif. Mais au début, j'étais un peu réticent, je ne voulais pas y aller parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc moi, je ne voulais pas avoir de problème avec la police. Mais cette personne, à chaque fois, elle nous venait nous expliquer c'est quoi le but du collectif. Du coup, c'est comme ça, c'est parti. Je me suis rapproché du collectif. J'ai participé 4 ou 5 réunions avec une manifestation. Il y avait les anciens qui expliquaient comment est-ce que tu peux aller à l'école. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu que j'étais pas seul. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en galère comme moi. Et il y avait aussi des blancs qui disaient, nous on connaît le système, vous revendiquez vos droits, vous n'êtes pas hors la loi. C'est quand vous êtes unis, vous avez la force. Donc je me suis senti un peu vraiment en sécurité. Je me suis dit, il faut se battre. D'ailleurs, dans la vie, si tu te bats pas, tu n'as rien. Donc, je suis parti comme ça avec le collectif. Dans notre tête, on sait que la mairie, c'est elle qui s'occupe de la ville de Paris. Normalement, dans leur ville, il n'y a personne qui va dormir dehors. Pour nous, c'est elle les responsables. Donc on va chercher les bâtiments de la mairie, c'est notre but. On ne s'était pas précipité, on a fait des maraudes. On a ciblé la Gaîté Lyrique. Le collectif, c'est le seul moyen qu'il a pour communiquer avec la mairie. Si on ne fait pas des manifestations devant l'hôtel de ville, si on ne fait pas des occupations, on n'a pas la chance de discuter avec eux. Donc quand on a occupé, ils n'ont pas le choix. Ils vont venir discuter avec nous, c'est dans ça qu'on peut avoir ce qu'on veut. On a fait les préparatifs pour l'occupation de la Gaîté. Oui, c'était une mission secrète parce que quand on venait, les portables étaient fermés, on ne prenait pas de risque, on fermait la porte. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient là-bas. C'est juste les personnes qui sont vraiment impliquées, plus les soutiens. On faisait en sorte de ne pas mettre les jeunes en danger. Ce qu'on avait prévu, c'est de rester jusqu'à vers 19h, jusqu'à ce que la Gaîté décide de fermer les portes. Après, on va dire qu'on ne va pas sortir. Vers 19h, on a fait sortir le banderole. On a chanté des slogans. Les gens sont sortis, nous on est restés. La sécurité a fermé la porte. On est rentré en contact avec la direction. On a expliqué la direction pourquoi on est venu. Là, la direction, ils nous ont dit, voilà ce qu'on va faire. On ne va pas appeler la police, on ne va pas vous mettre dehors. Mais le bâtiment n'est pas fait pour abriter des gens qui dorment à l'intérieur. On est rentré en contact avec la mairie. La mairie nous a dit qu'ils vont venir demain. Nous, on pensait que d'ici demain, il va avoir une solution. La direction aussi a fait pareil. Donc, ils ont appelé la mairie qu'il y a des jeunes qui sont rentrés là-bas. Ils disent qu'ils ont besoin de logement. Et là, on a fait un communiqué dans notre groupe Instagram et Facebook, disant qu'on a occupé la guide de l'Éric, qu'on a besoin de soutien. Le matin, on a rangé nos draps, on les a mis à côté, on a mis les chaises comme ça. Et là, c'est la mairie qui ils sont venus avec des propositions. Ils nous ont dit, nous, on va réquisitionner un gymnase uniquement pour les hommes. Et les femmes, on n'a pas leur place. Nous, on a trouvé ça un peu rigolo, quoi, parce que pour nous, c'est les femmes qui sont plus en danger que les hommes. On s'était dit, on a la force contre la mairie. Et aussi, l'idée du collectif, ce n'est pas individualiser les choses. L'idée du collectif, c'est tout le monde gagne ensemble ou tout le monde perd ensemble. On est rentré dans cet état d'esprit. Donc, il faut utiliser cette force pour pousser la mairie de faire quelque chose. Donc, on est resté. On voulait quitter parce que ce n'était pas un bâtiment qui est fait pour. Mais en même temps, on était à l'abri parce qu'il faisait froid dehors. C'était le mois de décembre. On se disait, tant qu'ils n'ont pas de solution, nous, on va rester. Et là, on a décidé aussi de faire tous les jours un rassemblement devant la guette l'Éric pour déranger les riverains, pour que ces gens-là aussi disent, on n'en peut plus, il faut que la mairie fasse quelque chose. Il y avait pas mal de soutien qui était là, on était vraiment visibilisés. Quand tu es dans la galère, s'il y a quelqu'un qui vient t'aider, il est solidaire. Surtout, je vais dire comme ça, vous n'avez pas la même couleur de peau. Pour moi, ça me touche. La direction nous a dit, pour rester ici, il ne faut pas dégrader rien, il faut que tout soit nickel. Donc, on s'était auto-organisé. L'idée, c'était un peu faciliter la vie de tout le monde à l'intérieur, parce que ce n'est pas facile. On s'est dit, nous aussi, c'est notre lieu de vie, on va essayer de le rendre propre. Donc, on a formé notre petit groupe. On s'est levé 6 heures, on préparait le petit déjeuner vers 20 heures. On commandait les barquettes de riz et on nous livrait les barquettes de riz. On se mettait devant, on distribuait les barquettes de riz à tout le monde. J'ai commencé à aller à l'école en début mois de février. Le matin, je me réveillais à 6 heures du matin. Je participais à donner le petit déjeuner. À 9 heures, je pars à l'école du Gers, j'arrive, je fais mes cours. Le soir, je reviens. On fait nos réunions ou nos âgés à 20h. Je fais aussi la distribution. Avant de se coucher, on essaie de passer de tous les côtés pour ranger les poubelles, essayer de mettre le lieu propre. Après, on essaie de dormir, on éteint les lumières, on dort. Le lendemain aussi, c'est comme la routine.
Je suis Jean-Magloire Mabali Bimem, agent SIAP à la Gaîté Lyrique. Mon travail consiste à surveiller le bâtiment et s'occuper des personnes qui y sont. Donc nous, on fait les rondes dans le bâtiment, on fait de la sécurité. Puis maintenant, on sécurise le bâtiment avec des alarmes et tout. Ça va faire 11 ans que je suis dans le bâtiment. Au jour de l'occupation, effectivement, je travaille de nuit. Je suis arrivé à 17h et j'ai constaté qu'au parc, en face de la gaieté, il y avait trop de jeunes. Ça m'a paru bizarre pour une soirée parce qu'il n'y avait pas un concert. Je suis allé voir ma collègue en lui disant que c'est bizarre. Je sens pas, il y a un truc qui est bizarre, il y a trop de monde. Juste le temps d'aller me changer, de remonter, elle m'appelle à la radio. Il y a les jeunes partout là. Je suis remonté en courant, appelé, alerté mon chef d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a du monde partout. Ils étaient plus de 200 avec des pancartes de réclamation. On veut le logement, on veut le logement. Moi, je dis à mon chef, écoute, là, on ne peut rien faire. On est obligé de subir. On ne va pas les sortir de force. On va les laisser brailler et tout. On va informer les différents responsables et on verra ce qu'ils vont décider. On ne pouvait rien faire. On était deux. Je suis pas fou, je veux parler m'opposer à 200 personnes. quand je vois en face de moi, c'était des genoux. On ne savait pas où ils venaient, de quoi il s'agissait. Donc, on s'est dit, forcément, peut-être qu'ils vont râler, ils vont brailler, après ils vont partir. Mais après, on a vu les gens, les sacs débarquer à gauche, à droite. Ils ont commencé à occuper, ils s'asseyaient et tout. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Puisque toutes les autorités de la mairie et la direction étaient au courant, donc je me suis dit que peut-être on trouverait une solution, mais rien. Je suis fâché contre tout. Contre le système, contre l'administration qui ne trouve pas une solution, quand même, parce qu'on avait eu tous ces responsables qui étaient arrivés ici, on s'est dit, bon, ils sont quand même au courant, ils vont trouver, je ne sais pas, une salle ou un gymnase, un truc comme ça. Mais ça n'a rien fait, rien du tout. Ça a plutôt endormi encore la situation. Avec le temps, ils avaient leur organisation. Nous, on ne faisait qu'encadrer. La solidarité, il y en avait. Les gens venaient donner, je sais pas, les gens venaient de partout. De poser des couvertures, de la bouffe. Ils partageaient le petit déjeuner. Parmi eux, il y avait ceux qui étaient scolarisés et qui sortaient, qui partaient à l'école. Qui sortaient et qui revenaient le soir. Ceux-là, ils étaient calmes. Donc, ils partaient, ils revenaient le soir pour venir manger, je crois, à 18h. La nuit, quand il y avait des matchs de foot, parce qu'il y avait des footeux d'un côté qui voulaient regarder leur match, et à ceux qui vont aller le matin à l'école. Il fallait jongler des deux côtés. Ça devenait compliqué. À partir du moment où tant de nuits après, on rappelle. Oh, il y a tel qui dit qu'il veut, il veut sortir, il veut... Tu peux être en train de faire une ronde. Oh, il y a bagarre. Tu redescends. Il fallait séparer. Oh, c'est quoi ? Non, l'autre, il a pris le chargeur de mon téléphone. Tu fais des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais il bagarrait pour tout et pour rien. C'était pas méchant, moi, je comprends. Il y a la frustration, peut-être bon, le sentiment qu'ils sont... Peut-être ils sont pas compris. Donc, nous, on était un peu un réceptacle de ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On pouvait que calmer, que ça n'aille pas de pire en pire. Non, parce qu'ils vivaient déjà une situation qui n'était pas bonne. C'est un peu ça. Quelque part, j'avais un pincement au cœur. Parce que je revois déjà, de par l'âge, des petits jeunes, ce sont mes petits frères, moi, des petites soeurs, des petits frères, donc ça me fait mal quelque part. On est resté des humains. Il y a des gens avec qui on a plus des atomes qui s'accrochent. Il y avait des petits avec qui, bon, il y avait la sympathie, d'autres qui étaient plus cool que les autres. Ça s'accrochait, il y avait des atomes qui s'accrochaient avec certains qui avaient des petits problèmes. On les aidait en français, on aidait d'autres à rédiger des courriers, des trucs comme ça. Donc on les aidait, donc voilà. Pas avec ceux avec qui on s'entendait. Pas tous. Je suis étranger, hein. Je sais ce que c'est. Donc ça faisait mal quelque part. J'avais enfance à 17 ans. Avant, j'étais chômeur au Cameroun. C'est mon oncle qui me fait venir, qui me dit, bah, écoute, il faut venir, tu vas rentrer à l'école. Mais bon, je suis arrivé, si ce n'était pas ça, j'étais confronté à autre chose. J'ai eu quand même des chocs, des éclairs quand même de mon passé, mais bon. Et on a les mêmes origines, mais on arrive, les parcours sont différents. Mais quelque part, quand je regarde le cheminement que ça donne là, les chocs là, ça me rappelle moi ce que j'ai eu les premières années. Quand je me suis retrouvé dehors aussi, donc moi j'ai connu ça, dormi dehors et tout, je l'ai connu, mais bon. C'est comme ça. J'étais confus. Entre être sévère, je ne peux pas être sévère, c'est des humains. Tu as le cœur qui pèse, qui est sous la main en disant, ben oui, bon, ils vont aller où ? Il y a ce côté, un côté ça et l'autre côté. Bon, à un moment, tu te dis, bon, attends, vous êtes bien gentils, mais bon, nous, c'est notre boulot. Au bout de 2-3 mois, nous, on a commencé à flipper quand même. Dans ce sens que la situation, au lieu de finir ou de s'arrêter, de s'amenuser, ne s'amusait pas. Donc on s'est dit, mais attends, ça ne va pas finir cette histoire-là. Je pense que d'ici, je ne sais pas, peut-être la fin d'année, on n'aura plus de boulot. On a beau aimer les gens, mais bon, à un moment, on a eu peur pour notre emploi. L'évacuation a eu lieu, je crois, au mois de mars, avec la préfecture de police, la mairie de Paris, et puis la direction de la gaieté. La veille Ils avaient manifesté devant la gaieté. Ils savaient qu'ils partaient parce qu'on les avait dit, écoutez, ça ne sert à rien. N'allez pas faire le bras de fer, vous ne pouvez pas. Ça faisait mal parce que, bon, tu vois, c'était des petits jeunes qui se sont retrouvés dehors à brailler avec leurs effets et tout. Ils sont sortis d'elles-mêmes, donc ça faisait mal, mais bon, c'est l'autorité, qu'est-ce qu'on peut. On a appris qu'ils dormaient sous les ponts, ça faisait mal. On ne pouvait rien faire.
La sécurité nous a beaucoup aidés, même si on a menacé leur travail, là où ils peuvent gagner leur vie. On a compris qu'on les a mis dans une situation très précaire, mais ils nous ont soutenus. C'était vraiment très, très, très difficile à gérer. On avait 5 toilettes, on sortait dehors pour se laver. À un moment donné, on était plus de 450 à l'intérieur, donc il n'y avait pas de place. Tu viens à 18h, tu n'as pas mis ton drap, il y a quelqu'un qui va venir piquer ta place. Quand tu viens, tu t'énerves, vous vous battez. Il y avait des petites tensions parce que c'est normal. Beaucoup de personnes dans un bâtiment qui n'est pas fait pour abriter. Physiquement, on est fatigué, moralement, on est fatigué. On ne sait pas ce que ça va donner. Tout le temps, il y a des nouveaux qui viennent, qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Donc pour nous, c'est normal qu'il y ait de petites tensions. Tout le monde venait intervenir pour que ça se calme vite. Donc tout le monde était vraiment soudé.
La rue n'est pas faite pour une personne, même pour les chiens, même les chiens voient ici de dans un néant. Peu importe l'humanité, c'est cette.
Après 3 mois et 2 semaines de combat, de lutte, on reçoit un arrêté de police qui dit que le 18 mars, on va sortir de la gaieté lyrique. Ce jour-là, c'était vraiment quelque chose que je vais retenir dans ma tête. De 18h jusqu'à 4h du matin, il y a des jeunes qui dansaient dehors, il y a des jeunes qui s'amusaient dehors, il y a des soutiens qui étaient là. Il y avait vraiment de l'harmonie, on était tous... Ce que j'ai ressenti, je sais qu'on allait être expulsés, mais voir tous ces gens-là, ça m'a dit que, ouais, même si on a perdu, c'est un combat vraiment noble. Sinon, tous ces gens-là n'allaient pas être là. Donc, je me suis dit dans la tête, même si on sort ici-là, moi, je vais continuer jusqu'au bout. Et heureusement, tous les délégués qui étaient là-bas étaient dans ce même état d'esprit. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait un bon boulot. De 10 décembre jusqu'au 18 mars, il n'y a presque aucun jeune qui a dormi dehors. C'était le moment d'hiver. On est restés ensemble, soudés. On a partagé les mauvais et les bons moments ensemble. Donc ça, c'est une victoire pour nous. Et là, la police a débarqué à 4h du matin. Ils ont bouclé tout le périmètre de la gaieté. Tout était bouclé. Quand la police est venue, on a évacué tous les bâtiments. Tous les jeunes étaient sur le parvis de la gaieté lyrique. Tout ce qu'on veut, on ne veut pas que vous nous faites mal. On ne veut pas qu'il y ait de problèmes entre nous. Nous voulons que vous nous laissiez partir tranquillement. La dame, elle nous a dit, ok, vous avez jusqu'à 6h du matin pour que tout le monde sorte du bâtiment. C'était ça le deal. À 5h40, ils nous ont gazés. Et là, c'était horrible. Ils ont gazé à la... Il y a tout le monde qui pleurait. Moi, je suis sorti. Je n'ai pas pu ouvrir mes yeux. Je marchais, yeux fermés. Il y a des gens qui tombaient. J'ai perdu mon téléphone là-bas. Il y a beaucoup qui ont laissé leurs affaires là-bas. C'était du n'importe quoi. La route était complètement barricadée. Il y a beaucoup de gens qui pleuraient, qui hurlaient parce que ça les faisait mal. c'était chasse à l'homme, quoi. La police était partout, partout, partout. Dans les différents commissariats, il y avait en tout, 27, 28 jeunes. Le lendemain, je n'ai pas pu aller à l'école parce que je n'ai pas bien dormi. On avait peur de retourner à Paris parce que tu as plus de sens de croiser la police quand t'embarques. J'arrivais pas à vraiment savoir si on est sorti de la gaieté sans avoir quelque chose parce qu'on avait tellement le poids pour gagner, on avait tellement de soutien, on avait tellement de force, on avait d'espoir pour qu'on sorte là-bas avec un logement. Donc moi, je réalisais pas qu'on est sorti sans gagner. À chaque fois, il y a quelque chose qui venait dans ma tête. Tout ce que vous avez fait à la gaieté, c'est le début du combat. Tu es pu aller à l'école. Si tu as moins de problèmes, tu sais qui appeler. Même si tu es dans la galère, je me suis dit dans ma tête, ça, c'est une petite victoire. Donc, il faut que ça continue. Et là, c'est parti comme ça. L'école aussi m'a aidé. Je continue à militer. Et finalement, j'ai compris qu'il faut plus que ça. Je n'aime pas le mot politiser parce que pour moi, chercher un endroit où dormir, ça, ce n'est pas de la politique. C'est juste dire qu'on est là, il ne faut pas nous oublier, on veut s'intégrer dans votre pays. Pour commencer, il faut nous donner un toit sur la tête. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, je vois différemment parce que je m'implique dans la société. Je suis curieux, j'essaie de savoir un peu de tout, même si ce n'est pas facile. Je ne vais pas dire que tout est rose aujourd'hui, mais à cet allir, je pense que je vais bien m'intégrer, je vais bien réussir ici. Et là, je vais continuer à lutter, à militer, à faire tout ce qui me passionne, à faire tout ce qui est dans ma tête, à suivre ma façon de voir les choses et continuer à apprendre et à grandir.
C'était « Quand la gaieté lyrique était occupée », un reportage de Mariem Cissé réalisé par Louise André. Merci à Alassane et à Jean Macloire, ainsi qu'à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Mina Morel, notre stagiaire. Oh,
Yes, I'm a good time.